Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
L'adversaire veut créer l'ingouvernabilité par la déstabilisation des institutions pour empêcher la RDC de développer son système de défense pour bien exploiter ainsi le pays. C'est ce que pense le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula avec la reprise des hostilités dans l'Est après la tripartite de Luanda. La dynamique impulsée en 2019 avec la fermeture de plusieurs lieux de détention au secret tente à s'estomper, c'est ce que pensent les défenseurs des droits de l'homme contre les risques de torture, des détentions arbitraires, de mauvais traitements et des détentions préventives prolongées. Le cas le plus éloquent est ce qui se passe à la prison centrale de Makala, signale-t-il. Enfin, nous recevons dans cette édition professeur Casimir Boumbiki-Tété. Il est le directeur national du Centre de recherche environnementale dénommé Les Amis de l'Essoula. Il nous parlera des objectifs de la création de cette organisation dans le cadre de la protection des forêts de la RDC. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Mais tout d'abord, sachez que les prix de carburant à la station viennent d'augmenter à nouveau. Dans un communiqué du ministère de l'économie parvenu à Radio Okapi hier jeudi pour la zone ouest, le litre d'essence coûte désormais 2495 francs congolais alors que celui de gazole revient à 2485 francs congolais. Selon la même source, pour les zones nord et est, le litre d'essence revient à 3100 francs congolais pendant que celui de gazole coûte 3050 francs congolais. Pour la zone d'approvisionnement sud, le litre se vendra à 3145 francs congolais, alors que celui de gasoil à 3140 francs congolais. Ce communiqué conclut que ces prix sont d'application à partir de ce vendredi 8 juillet et que le gouvernement s'emploie à contenir les effets induits par la flambée des prix du pétrole à l'échelle internationale. Comment expliquer la reprise des combats hier jeudi entre les FARDC et le M23 alors que la veille, lors de la tripartite de Luanda, la feuille de route parlait d'un cessez-le-feu et du retrait des forces rebelles des positions occupées sur le sol congolais? Pour Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, c'est une technique de l'adversaire pour créer l'ingouvernabilité par la déstabilisation des institutions. L'objectif poursuivi étant d'empêcher la RDC de développer son système de défense pour bien exploiter ainsi le pays. Il a déclaré hier jeudi, lors de la conférence de presse conjointement animée avec le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Christophe Lutundula l'a dit à Paul Matendo.
On veut maintenir le pays dans la situation d'ingouvernabilité en infusant dans le sang congolais l'instabilité, en mettant dans nos têtes un complexe, et on veut créer des espaces de libre exploitation. On veut se donner, l'ampleur du bœuf. Rappelez-vous la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. On veut bloquer le processus de Nairobi. C'est ça le vrai problème, la vraie motivation. Quant au retour sur la scène du 1-23, bon, voilà la question du retour du 1-23. Donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir. Ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter.
Autre nouvelle, la réunification familiale, un moment émouvant pour les familles séparées subitement lors des différents conflits armés. 83 enfants dont l'âge varie entre 5 et 19 ans attendent impatiemment retrouver leurs proches dont ils sont séparés depuis des années. Le comité international de la Croix-Rouge prévoit 11 rotations par avion dans les villes et cités des provinces de Tanganyika et du Haut-Katanga pour faciliter ce retrouvaille. Hier jeudi déjà, quelques-uns de ces enfants ont retrouvé leur famille. Patience Ngalula a vécu ce moment rempli d'émotions. Suivez son reportage.
Il est 8h30, c'est jeudi 7 juillet. 19 enfants embarquent pour la première rotation de Puerto Amanono. Parmi eux, Janson, âgé de 12 ans, et sa sœur de 14 ans. Ils ont quitté Manono depuis 2017 lors des affrontements entre deux communautés locales.
Les parents étaient au champ et nous étions à la maison. Nous avons commencé à entendre les gens s'enfuir et nous les avons fuis. Ceux qui étaient derrière nous ont dit que nos parents étaient déjà morts.
À l'annonce de l'atterrissage, les enfants aperçoivent la terre de leurs ancêtres. Au pied de l'avion, la grand-mère et l'oncle de Janson sont venus les accueillir. Au-delà de tout, l'espoir de poursuivre les études dans sa terre natale où ses parents ont perdu la vie lors des atrocités rennais.
J'ai fait longtemps là où j'étais, mais aujourd'hui, je suis content de rentrer dans notre famille. Je veux étudier, peut-être qu'ils ne vont pas me scolariser.
Jean Bouyou Ilunga, oncle paternel de Janson, rassure de l'encadrement de ses neveux orphelins.
Je suis très content de retrouver ces enfants après plusieurs années. Je ne savais pas où ils étaient et elles non plus n'avaient pas mon adresse. Je vais prendre bien soin d'eux.
Le lien familial ainsi rompu soudainement sont à nouveau rétablis grâce au travail de la Croix-Rouge de la RDC en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge. Dema Nono, Patience Ndaloula, Radio Okapi.
En Ituri, la zone de santé de Loloa dans les territoires d'Irumoa enregistre plus de 34 enfants malnutris parmi des personnes retournées qui avaient fui les atrocités des rebelles ADF. Le médecin-chef des zones de santé de Loloa qui confirme cette nouvelle signale 3 décès parmi ces malades. Il justifie cette situation par le manque d'assistance en vivres à ces vulnérables dont la plupart avaient perdu leurs biens ainsi que leurs produits des champs avant leur fuite. La société civile locale appelle à une assistance d'urgence. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
L'aire de santé la plus touchée est celle de Loloa qui enregistre 35 cas d'enfants malnutris, dont 15 filles mineures. Il s'agit des enfants retournés à Loloa avec leurs parents. Tous avaient fui à Mambasa et dans le groupement voisin de Bakpoulou, dans la chefferie de Wayasevonkoutou. Selon la société civile locale, ces enfants vivent dans des conditions difficiles, faute de prise en charge. Kassindo Babanote.
Vraiment, ils vivent une vie pénible. Les images de ces affaires-là, ça fait mal au cœur. C'est ainsi que nous alertons seulement aux humanitaires chargés de suivi de ces enfants-là, malnutris, parce que c'est urgent.
Trois enfants parmi ces malnutris sont décédés la semaine dernière, a déclaré le médecin chef de zone de santé de Loloa. Le docteur Patrick Maricard a attribué cette situation au manque d'assistance humanitaire dans la zone. Il ajoute que de nombreux déplacés n'accèdent pas encore à leur champ où ils peuvent se procurer des vivres.
Les gens sont rentrés dans leur coin, mais le métier de la population, là où ils se sont déplacés, soit disant qu'ils vont recevoir les vivres. Ils sont en train d'attendre de recevoir les vivres, ce qui empire la situation. Et aussi, ils devraient rentrer et récolter ce qu'ils avaient semé. Tout ça, ça ne se suit pas et ça empire la situation.
Notons cependant que c'est depuis mardi dernier qu'une équipe de l'ONG internationale ADRA a acheminé dans la zone, notamment des aliments enrichis pour sauver ses enfants. Bounia, Jean-Claude Loki dit les Radio Capi.
On revient ici à Kinshasa. La ville-province de Kinshasa se charge désormais de l'identification et de la délivrance de la carte de résidence pour les étrangers vivant dans la capitale. Une commission de supervision de ces opérations instituée par le gouverneur de la ville et dépendant du ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice en assume la charge en partenariat avec Smart Security Service SRL, un partenaire privé. Le ministre des tutelles, Didier Tengetelito, a donné le coup d'envoi de ces opérations hier jeudi en inaugurant en même temps le bâtiment devant servir de siège de la commission provinciale de supervision de la délivrance de la carte de résidence pour les étrangers de Kinshasa. Suivez un extrait de ses propos au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Dans le cadre de leur sécurisation, de la sécurisation de la ville de Kinshasa, ils doivent tous se soumettre à cela et ça nous permettra de les identifier, de les connaître. Et évidemment, pour ceux qui ne voudraient pas se soumettre, ils ne pourront pas exercer une activité lucrative, confessionnelle ou tout autre. Ils vont subir la rigueur de la loi et s'ils ouvrent des comptes sans carte de résident, c'est dans notre pays. Mais les gens doivent apprendre aussi à accepter et à respecter nos textes et lois de la République. Nous avons pris 10 jours ouvrables. Je sais qu'il y a beaucoup d'immigrés en vacances, ils sont chez eux. Mais évidemment, lorsqu'ils vont revenir au pays, ils auront 10 jours pour se faire identifier. Vous venez vous faire identifier. Vous avez vos documents, c'est la taxe que vous aurez à payer et automatiquement, on va vous rappeler 48 heures, 72 heures après que la commission ait siégé parce qu'on ne donne pas la carte de résident à tout le monde. Dans la commission, vous avez nos agents de la DGM et aussi de la NERC et à partir de ça, quand on va vous appeler, si vous faites l'objet d'un avis favorable, cette carte vous sera donnée en dehors des 5 minutes qui suivent directement.
Les Congolais acquis une double nationalité vivant à Kinshasa sont soumis à la même exigence d'identification et d'obtention de la carte de résident résidence pour les étrangers. En revanche, dans son communiqué rendu public le 5 juillet dernier, le gouverneur de la ville, Gentil Ngobila, exclut de cette formalité les étrangers membres du corps diplomatique et consulaire, les fonctionnaires internationaux, leurs conjoints ainsi que leurs enfants non mariés vivant sous leur toit. Environ 4 ans après la publication des recommandations du comité contre la torture sur la RDC, un certain nombre d'avancées a été enregistré dans le pays. C'est notamment la fermeture de plusieurs lieux de détention secrets. On a alors assisté à la libération de prisonniers politiques en 2019. Ceci ressort de la conférence sur la protection des défenseurs des droits de l'homme contre les risques de torture, de détention arbitraire, de mauvais traitements et de détention préventive prolongée. C'était hier jeudi au centre Carter ici à Kinshasa. Les participants à ces assises ont constaté cependant que la dynamique impulsée en 2019 tend à s'estomper. Ce qui se passe à la prison centrale de Makala en est une illustration. On écoute à ce sujet Isidore Ngwele, conseiller principal aux droits humains pour la région d'Afrique à l'Organisation mondiale contre la torture. Il est au micro de Dandy Bopela.
Nous voyons malheureusement que les actes de torture continuent, que des personnes continuent de faire l'objet d'arrestations arbitraires, de violations flagrantes de leurs droits fondamentaux à ne pas être privés de liberté sans raison. Nous avons visité la prison de Makala. Nous avons remarqué qu'elle était surpeuplée. Elle fait pratiquement 7 fois sa capacité normale. Pour une population de 1500 personnes, elle accueille aujourd'hui 9200 personnes. Ça bat tous les records mondiaux en matière de détention. Aucun être humain ne doit être privé de liberté dans des conditions inhumaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce nombre incroyable est notamment lié à des personnes en détention préventive prolongée. Ce qui signifie que la plupart d'entre elles, environ 70%, n'ont pas eu l'occasion soit de rencontrer un juge, soit d'être fixées sur leur situation. Et sont en détention de manière prolongée, c'est-à-dire parfois au-delà de la peine qui était attendue pour l'infraction qui a été commise. Cela en soi constitue déjà une violation de leur droit à la liberté. Lorsque la détention préventive est prolongée, abusive et dans des conditions inhumaines, cela pourrait s'apparenter à la violation de la Convention contre la torture.
Notons que cette conférence a eu lieu à l'initiative des ONG Organisation mondiale contre la torture et Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux avec l'appui de l'Union européenne. Et puis, lancement hier jeudi au Congo central des consultations provinciales dans le cadre de la justice transitionnelle. Ces consultations visent à déterminer les besoins de la population en termes de justice pour la restauration de la paix sociale. Elles sont organisées par le gouvernement à travers le ministère des droits humains avec un appui technique et financier du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon Maître Bertin Toumba du BCNUDH qui a encadré les activités commises à ces consultations, cette activité permettra au gouvernement de mettre en place un vrai État de droit. Nana plus richement.
Pendant 10 jours, 52 enquêteurs constitués des activistes et des ONG des droits de l'homme et des fonctionnaires du ministère de la Justice, outillés durant 3 jours par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, vont sillonner dans 10 territoires et 2 villes du Congo central. Ils passeront de porte à porte pour interroger les victimes, les familles des victimes, ainsi que les autorités politico-administratives habitant les quartiers où des violences ou un crime de masse ont été commis lors des événements tragiques dans le passé. Ils vont mener cette enquête d'opinion non seulement sur les récents massacres des adeptes de Bundundia Congo, mais également sur d'autres événements qui ont troublé la paix sociale dans la province. Les résultats permettront au gouvernement d'avoir une idée sur les besoins de cette population victime de violations en termes de justice transitionnelle, en vue d'asseoir une justice équitable et un réel état des droits. Rappelons que la justice transitionnelle est un mécanisme mis en place dans des pays post-conflit. Elle vise la paix sociale à travers ses 4 piliers qui sont la justice, la réconciliation, la réparation ainsi que la garantie de non-répétition. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Kinshasa accueille à partir de ce vendredi 8 au dimanche 10 juillet à la place de la gare centrale sur le boulevard du 30 juin un grand festival dénommé Rumba Mokili Mobimba, une grande fête musicale et multiculturelle qui célèbre la reconnaissance depuis le 14 décembre 2021 de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine mondial culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Pour Didier Pambia, directeur de l'agence Optimum, initiateur et promoteur du Festival international de la rumba et de l'église élégance, ce festival est une belle occasion pour porter plus haut l'étendard de la rumba congolaise. Il en parle au micro de Jean-Marc Matwaki.
Le thème de cette année, c'est Rumba Mokili Mobimba. Un peu pour dire que maintenant que nous avons cette reconnaissance, c'est le moment de partir à la reconquête. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette rumba a dominé pendant des décennies la musique africaine et même la musique mondiale. Donc c'est une occasion pour moi de redémarrer, de relancer notre musique qui a subi les contre-coups non seulement d'une certaine diaspora qui est la bannie des grandes salles au niveau européen. Or, pour que ces musiciens puissent trouver des revenus, puissent permettre à cette musique d'être un sorte d'ambassadeur pour nous, il est important que cette musique puisse aller vers les salles à l'étranger. En faisant aussi un mouvement aussi qui peut être aussi inverse, c'est de créer nous-mêmes ici un festival d'envergure qui permette aux autres de venir découvrir notre capitale, de découvrir notre musique. Donc c'est ce que nous essayons de faire aussi avec le collectif Rumba Parade et Fire.
Actualité internationale.
Le mandat de la MINUSMA a été reconduit il y a peu plus d'une semaine, un an de plus pour la mission onusienne de maintien de la paix qui soutient le pays depuis 2013, mais ce renouvellement s'est effectué dans des conditions plus qu'inhabituelles puisque le pays hôte, le Mali, donc, a ouvertement affiché son mécontentement et prévenu qu'il ne respecterait pas certaines dispositions, celles notamment sur les enquêtes de la mission onusienne concernant le droit de l'homme.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le professeur Casimir Ngoumbi Kitété. Il est directeur national du Centre de recherche environnementale dénommé Les Amis de l'Essoula. Il nous parle des objectifs et de la création de cette organisation. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole. Suivez.
Professeur Casimir Ngoumbi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous venons d'assister à la sortie officielle du CREAL, le Centre de recherche environnementale dénommé Les Amis de l'Essoula. Qu'est-ce qui justifie sa création?
Sa création est justifiée par notre contribution en tant que chercheur à l'atténuation du climat, mais en même temps, une occasion de donner aux scientifiques en chômage. Vous vous rendez compte, vous avez beaucoup d'ingénieurs qui savent quoi faire, vous avez des juristes qui veulent s'occuper des questions liées au droit de l'environnement, qui savent quoi faire. Alors, nous avons estimé qu'il était grand temps pour que nous rassemblions toutes ces intelligences, le mettre ensemble pour que chacun apporte sa contribution dans le cadre de la protection de l'environnement et dans le cadre du développement durable.
Quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés au départ?
Les objectifs, c'est notamment celui de réaliser les activités alternatives en faveur de populations locales et riveraines dans les environs de aires protégées. Vous vous rappelez, ici nous avons le parc national de Mami, vous avez le parc de la Maïko et beaucoup d'autres aires protégées. Ces populations locales et riveraines doivent être prises en charge à travers un certain nombre d'activités qu'il faut réaliser. Mais en même temps, sensibiliser la population pour des questions notamment de réchauffement climatique, ces changements climatiques. Il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'environnement que je ne sais pas le résumer ici. Bref, la biodiversité doit être protégée en commençant par nous-mêmes les hommes aujourd'hui, en passant par les animaux et les végétaux. Toutes ces espèces méritent protection, méritent valorisation et beaucoup d'autres choses. Et nous n'avons pas voulu qu'au niveau d'une grande province comme celle de la Tchopo, d'autres provinces de la RDC, au niveau de notre pays, qu'il n'y ait que quelques acteurs à compter à bout de doigts qui s'occupent des questions liées à la protection de la biodiversité, liées à la question de la protection de l'environnement, liées aussi à des grands dossiers que nous avons aujourd'hui chez nous en République démocratique du Congo. Nous apportons au monde, notamment les questions liées au calcul carbone. Nous avons des experts, plusieurs experts, d'abord à Kisangani, à travers la République démocratique du Congo, qui doivent apporter leur contribution par rapport à cette question. Mais en même temps, nous avons voulu poser des actions sur le terrain et qui soient suivies directement par les résultats des recherches qui doivent être menées pour que les décideurs de notre pays prennent en charge ces résultats de recherche liés au domaine de l'environnement et qu'en même temps, les institutions de notre pays tirent énormément profit des taxes de ressources qui sont pillées peut-être par certains acteurs pour que les politiques, les institutions de la République puissent bénéficier de toutes les actions qui sont menées dans le domaine de l'environnement et au niveau de le plus bas, que le développement local suive aussi.
Et professeur, quel comportement attendez-vous de la population, et plus particulièrement des populations riveraines?
Nous voulons que ces populations arrivent à diminuer leur pression sur les aires protégées. Diminuer leur pression, mais on ne peut pas demander aux populations de diminuer leur pression s'il n'y a pas des activités qui sont menées à la lumière d'autres provinces. Par exemple, si nous pouvons nous situer ici dans un contexte, c'est la province d'Achopo. Donc, les demander de diminuer leur pression sur les actions anthropiques, sur les aires protégées, mais en même temps, les prendre en charge, d'où obtenir des comportements responsables au niveau de ces populations riveraines et locales, parce que ça va très mal. L'environnement va très mal, les climats toujours chauffé et que nous devons arriver à trouver des solutions le plus rapidement possible.
Professeur Casimir, le CREAL s'installe dans un environnement déjà couvert par certaines ONG qui militent pour la protection des forêts. Quelle est votre spécificité?
Nous ne sommes pas premiers, ça il faudra qu'on le dise. Nous voulons plutôt apporter une contribution par rapport à tous ces faits, tous ces ONG, ces organisations non gouvernementales qui existent déjà. Nous voulons plutôt apporter notre contribution. Notre spécificité, c'est celle de voir le plus rapidement possible le développement local, suivre ces actions qui sont menées ci et là, que je considère comme des actions liées à l'exploitation vertigineuse de notre forêt, alors que le développement ne suit pas. Il y en a qui opèrent déjà pendant plusieurs décennies, mais on ne sent pas venir ce développement local, ce développement durable au niveau de notre pays. On chante toujours comme un hymne que nous avons la forêt, nous avons la rivière, nous avons les eaux, mais on ne sent pas, n'est-ce pas, tout de suite là venir le développement durable par rapport à toutes ces potentialités biologiques, ces potentialités qui se trouvent par-ci par-là. Les réponses ne suivent pas par rapport au développement durable.
Professeur Casimir Ngoumbi, merci.
C'est moi plutôt qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.